Kajundeki le 4-13h à Bangui, même heure à Karno et à Bossangwa. Le journal de 13h avec Inès Lorngopo. Inès, bonjour.
Bonjour Idriss, bonjour à tous. Tout de suite les titres de cette édition. La population de Karno appelle à la réhabilitation des axes routiers de la localité. La forte dégradation de ces infrastructures impacte négativement les activités économiques. Bossangwa, le procureur de la République, après le tribunal de grande instance, dément les allégations selon lesquelles les violences sexuelles faites aux femmes et aux filles ne sont pas réprimées. À suivre Fulbert Pépindé dans ce journal. Et puis à Bangui, se touffe de soulagement pour les habitants de Gobongo 1 dans le 4e arrondissement. Un pont communautaire leur est offert hier par l'Association pour le travail et le développement en partenariat avec le député du secteur. Le marathon de Bangui, un succès ce matin, des centaines de personnes y ont pris part. Et nous sommes deux pour la présentation de ce journal. Igor Djaskensinapai, bonjour.
Ah bonjour Inès Lorngopo, bonjour à tous.
Les habitants de Karno, dont la Mambéré et Kadéi, déplorent la dégradation des infrastructures routières dans la localité. Cette situation rend difficile la libre circulation des biens et des personnes à Karno et ses environs. La population demande à l'État de tout mettre en œuvre pour pallier ce problème qui constitue selon elle un frein pour le relèvement des activités économiques. Le point avec vous, Igor Djaskensinapai.
Nous sommes ici à la gare routière de Karno. Deux véhicules 10 roues marque Mercedes viennent de Boire, situé à 100 km de Karno à l'ouest. Deux apprentis décrivent l'état de la route qu'ils ont empruntée entre Boire et Karno. Charles Bag et Vianney Jafarou.
Il n'y a pas de route entre Boire et Karno. Tu ne peux pas supporter les caprices de ton propre véhicule. C'est comme si l'État ne reconnaît pas cette route. Ce n'est pas possible.
On roule dans des conditions difficiles, des pannes, crevaisons sont nos quotidiens. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement de nous réparer la route.
La situation devient de plus en plus difficile, même dans la ville de Karno. L'axe central menant de PK5 à la gare routière est coupé par un fossé. Les usagers sont obligés de passer par le marché Gbaya pour arriver au centre-ville. Ulrich Kongosa, délégué des chargeurs de Karno.
Maintenant, la ruelle est traversée vers le marché Gbaya. Mais comme la route n'est pas bonne à Karno, nous les jeunes aussi avons la souffrance dans la ville de Karno. Passer vers la côté de cette route que nous vivons, passer la traversée de le grand véhicule. Moi, je dis à nos autorités de seulement nous aider envers Mambéré Kadéi.
Les autorités locales aussi joignent leur voix à la population pour demander à l'État une solution à cette situation afin de désenclaver la région. Célestin Doté, sous-préfet de Karno.
La situation elle est déplorable. En ce sens que pour les différentes routes reliant Karno, Baoro, Karno, Gazi, Karno, Berberati, elles sont complètement détruites. Il a fallu maintenant une réparation des routes pour que la population puisse vaquer librement à leurs occupations. Et ça, c'est le cri d'alarme de cette population que je transmets sur votre antenne.
Le corridor Karno-Berberati, distant de 100 km, et les pistes rurales Karno-Gazi, Karno-Mboula, Dingiri et autres ne sont pas épargnées de cette situation. Cette dégradation des infrastructures routières impacte négativement non seulement l'évacuation des produits agricoles, mais aussi les activités commerciales. Igor Djeskin, Sénapaï de retour de Karno, Radio de Keluka.
Un ouf de soulagement pour les habitants de Gobongo 1 dans le 4e arrondissement de Bangui.
Un pont communautaire l'air est offert ce samedi 14 décembre par l'Association pour le travail et le développement en partenariat avec le député de la localité.
Un projet qui s'inscrit dans le cadre du plan d'urgence pour faciliter la circulation des biens et des personnes. Rolf Demialeux, reportage.
Un moment mémorable de joie et d'apaisement pour les jeunes et les notables de Gobongo 1. Après des décennies de tracasserie, ils ont reçu ce pont communautaire pour faciliter le déplacement des engins, des marchandises et des piétons. Ce joyau fait en bois est d'une longueur de 15 mètres et permettra aux habitants de se rendre librement à la source de Ngbengbe pour s'approvisionner en eau potable. André Ngoya, chef de quartier Gobongo 1.
C'est choquant quand les pauvres femmes et les enfants viennent puiser de l'eau et en sortant, même les hommes aussi, en sortant, ils tombent, ça fait du mal. Raison pour laquelle cette association s'est organisée, premièrement, à travailler la marche pour que la population puisse venir puiser de l'eau et sortir dans de bonnes conditions.
Très heureuse, Sidonie Wanzele demande aux jeunes de ce quartier d'en prendre soin.
Je vous dis infiniment merci de ce que vous venez de faire pour notre quartier. Grâce à ce pont, nous pouvons marcher librement pour aller chercher de l'eau potable à la source de Ngegbe. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne davantage une fois de plus. Merci.
Bikir, merci.
La dotation de ce quartier en pont communautaire est une première. Le projet est financé par l'Association pour le travail et le développement œuvrant dans ce secteur. Il a également bénéficié de la contribution des habitants et des personnes de bonne volonté.
Merci à vous, Rolf. Domiale, le comité local de paix du 8e arrondissement de Bangui et l'ONG internationale Search for Common Ground s'investissent pour assainir le secteur.
Ils ont lancé vendredi à Bangui une campagne de sensibilisation sur le déversement des ordures. Une initiative pour rendre propre la localité afin d'offrir un cadre de vie sain à la population.
Germaine Mamadou, coordonnatrice du comité local de paix du 8e arrondissement, au micro de Alexia Félix Yangbandi.
Il y a des jeunes, des femmes et des notables représentants des ministères de l'urbanisme, environnement. Ils sont tous là pour cette sensibilisation. C'est le déversement des ordures dans les canaux. Donc, on est en train de discuter sur les ordures dans le 8e arrondissement. Je pense qu'à travers cette sensibilisation, c'est là qu'on va mettre les plans d'action en place et les recommandations pour bien travailler. Vous savez que la population, je ne sais pas, peut-être c'est l'ignorance, ils versent des ordures partout. Même les canaux qui sont faits là, ils versent des ordures dans les canaux et si la pluie pleut, ça déborde le quartier. C'est par rapport à ça que nous nous sommes réunis ici pour sensibiliser la population sur le déversement des ordures dans les canaux.
Le projet d'appui au retour et à la réintégration en République centrafricaine s'active pour le retour des déplacés à Bangassou en particulier et dans le Mbomo en général.
25 leaders communautaires et chefs de quartier se sont retrouvés les 10 et 11 décembre pour réfléchir sur les stratégies pour pouvoir permettre aux personnes qui ont fui la localité de reprendre leurs biens.
Les précisions de Jean Balipio, notre correspondant à Bangassou.
Ces deux jours d'information ont été l'occasion pour les organisateurs d'amener les participants à comprendre l'importance et l'intérêt de la restitution des biens meubles et immeubles de tous ceux qui avaient fui la région à cause des affrontements. Il s'agit aussi de les imprégner sur les différents modules, entre autres le cadre juridique national et international, les conflits liés au logement, terres et biens, la technique de résolution pacifique des conflits, ainsi que le déplacement et retour des populations. Selon les initiateurs, l'occupation des maisons, des terres et des biens de manière illégale est un défi majeur dans toute la région du Mbomo. Certains déplacés souhaitent retourner dans leur localité d'origine, mais se confrontent à des difficultés liées à l'appropriation de leur logement, terres et biens. À l'issue de ces retrouvailles de deux jours, les 25 participants iront dans leurs zones respectives restituer les acquis afin de promouvoir le vivre ensemble. Jean Balipio Bangassou, Radio de Teluka.
À Bossangoa, cette mise au point du procureur de la République après le tribunal de grande instance sur les violences sexuelles.
Fulbert Pépendé dément les allégations selon lesquelles les violences sexuelles faites aux femmes et aux filles ne sont pas réprimées dans la ville. Selon le procureur, ces délits sont régulièrement sanctionnés.
Mise au point faite hier à l'occasion d'une conférence débat relative aux 16 jours d'activisme de lutte contre les FBG. Il demande aux chefs de quartier et village de renvoyer ces cas devant les tribunaux compétents.
Fulbert Pépendé au micro de Raphaël Nganaré, notre correspondant à Bossangoa.
Le terme « violence basée sur le genre » englobe des infractions de droit commun que les tribunaux répriment tout le jour. Et ce terme ne figure pas dans le code pénal, mais ce qui ne signifie pas que les tribunaux ne répriment pas ce que vous appelez aujourd'hui « violence basée sur le genre ». On attend par ce terme toutes les infractions de droit commun telles que l'attentat à la pudeur, le viol, la pornographie, la pédophilie, le racolage public, les violences de voies de fait, les coups de blessure volontaires, etc., qui sont des infractions de droit commun, qui trouvent droit de cité dans ce que vous appelez violence basée sur le genre. Les textes qui incriminent ces infractions ne parlent pas de violence basée sur le genre, mais lorsqu'on va vous décortiquer le contenu de ce terme, vous allez vous rendre compte que ce que vous appelez VBG sont des infractions de droit commun qui sont régulièrement réprimées par les tribunaux. Les violences sexuelles basées sur le genre sont des infractions pénales. Et les chefs de village et de quartier n'ont pas la compétence de traiter des affaires pénales. Lorsqu'ils ont connaissance de ces faits, de transmettre le dossier au procureur de la République ou dans une unité de police judiciaire dans la localité où il n'y a pas le procureur de la République.
Vous venez là d'écouter Philbert Pépende, procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Bossangwa. Et puis Igor, la plateforme nationale filière palmier à huile entend élargir ses activités à l'intérieur du pays.
Oui, Inès, elle a organisé jeudi à Bangui une rencontre d'échange regroupant plus d'une trentaine d'acteurs de cette filière. Objectif, évaluer les activités de la plateforme nationale déjà mises en œuvre afin de mettre en place le plan d'action 2019-2020.
Cette activité permet aussi de faire la promotion d'une filière huile de palme durable afin de lutter contre la faim. Dominique Ngonso, vice-président de l'Union nationale des exploitants de palmiers à huile en RCIA, est à votre micro, Igor.
Cette plateforme qui a été mise en place a commencé déjà à produire ses fruits. C'est-à-dire, nous avons installé, nous avons fait un travail seulement sur Bangui et ses environnements, dans le Mbelapopo et la Lobaye. Donc, déjà, on a fait une cartographie par rapport à ça. Et pour le moment, comme c'est une plateforme nationale, nous voulons l'étendre sur la RDC africaine. Donc, cette réunion-là, c'est pour l'étendre. C'est-à-dire aussi de faire les mêmes activités qui sont dans cette région-là, Bangui et ses environnements, dans les autres régions, surtout la Sangambaéré et la Mambéré-Kadéi. Et puis, pour le moment. Parce que la première étape de cette activité, si vous voyez bien, on dit le truc va jusqu'en 2020. C'est-à-dire en 2020, il faut qu'on fasse beaucoup d'activités par rapport à ça. On va l'étendre par rapport aux réalités de la République africaine, c'est-à-dire les conditions de paix, tout ça, pour que ça puisse aller jusqu'à arriver à un certain niveau. Ça, c'est le premier objectif de cet atelier-là. Le deuxième objectif de cet atelier, on va faire des études pour voir qui fait le palmier à huile, qui fait tout ça. Mais on a comme objectif de faire le palmier à huile responsable. On appelle RFSO. C'est-à-dire pour avoir un label responsable pour qu'on ne détruit pas la forêt.
Des informations hors du pays. Au Congo Brazzaville, 150 000 personnes sont victimes des inondations.
À Brazzaville, la capitale n'est pas épargnée de ces dégâts. La pluie qui est tombée dans la nuit de ce vendredi à samedi a aggravé la situation humanitaire des populations affectées qui appellent les autorités à l'aide.
Au Soudan, l'ancien président Omar El-Béchir a été condamné à 2 ans de détention en centre correctionnel pour personnes âgées pour corruption quelques mois après sa destitution par l'armée sous la pression de la rue.
Âgé de 75 ans, Omar El-Béchir a été destitué le 11 avril dernier après 30 ans de pouvoir. Il était jugé par un tribunal spécial depuis le mois d'août pour fonds perçus de l'Arabie Saoudite. L'ancien président soudanais a finalement été condamné à 2 ans de détention ce 14 décembre 2019.
Page sport, une présentation de Henri Juvenal Kouarépédé. Bonjour.
Bonjour Inès, bonjour à tous.
Athlétisme, la 5e édition du marathon de Bangui, placée sous le signe de la paix et du vivre ensemble, s'est tenue ce matin.
Des centaines de participants y ont pris part, parmi lesquels les coureurs venus du Cameroun, du Tchad et du Burundi. La course a été remportée chez les dames par le trio composé du Burundi, du Cameroun et du Tchad.
Basketball, les finales des playoffs de la Ligue de Bangui vont se jouer cet après-midi au Palais des Sports.
Les matchs démarrent à partir de 15h30 au Palais des Sport chez les filles, Nuitec Bantou Basket va croiser le fer avec Racing Club de Bangui et chez les garçons, le club Abeille et Assopété disputeront le trophée.
Laurent Sissamagalin, réélu président de la Fédération Centrafricaine de Judo par critère d'âge.
Il était en coude à coude avec son challenger Charles Fenakami à 2 reprises, 12 contre 12. L'Assemblée Générale a décidé de prendre le plus âgé, donc Jean-Laurent Sissamagalin comme président. Les travaux se sont déroulés hier au siège du Sonuska à Bangui. Jean-Laurent Sissamagalin montre ses chantiers prioritaires après sa réélection.
Il est à votre micro, Juvenal Kouarépédé.
Remettre en place les équipes correctement et donc là, appliquer les textes du statut et règlement intérieur. Donc faire en sorte que les compétitions redémarrent. Mettre en place les comités et là, je pense que ça va permettre de booster pour permettre à ce que donc, nos athlètes soient opérationnels pour les compétitions futures. Et à partir de là, mettre en place des structures pour que notre fédération soit visible. Aller vers les sponsors parce que c'est assez difficile. Trouver des partenaires dans des pays, par exemple en Europe, etc. Aller vers les ambassades pour pouvoir donc essayer de voir comment on peut faire pour aider. Surtout, faire en sorte que les clubs soient équipés pour qu'ils reprennent le chemin des entraînements.
Lancement cet après-midi à Bangui de la campagne de vulgarisation de la pétanque ou encore appelée jeu de boules.
Cette discipline sportive qui se pratique avec des boules est un cochonnet et en voie de disparition en Centrafrique. Cette première activité a eu lieu au lycée d'État des Rapides dans le 7e arrondissement de Bangui.
Football dans le 8e arrondissement de Bangui, la 29e journée du championnat de la Sous-Ligue de Ucatex prend fin cet après-midi.
Cette 29e journée va s'achever avec 2 duels. Le premier oppose Galactique à Saint-Raphaël à 15h, puis Maseka va en découdre avec Spectrum 3 Sport à partir de 16h. Deux autres rencontres se sont jouées hier. Combattant Sport n'a pas fait de cadeau à Gala Badia 5 en l'abattant 3-0 et Réveil de Sinistrés a disposé de Scoot Foot 4-2.
Merci à vous, Juvenal Kouaripédi. C'est la fin de ce journal en français sur Radio Ndekeluka. La version en langue nationale, c'est après cette revue de presse internationale.
La revue de presse de Radio Ndekeluka.
Jean-Fernand, bonjour.
Bonjour, Marcel Mbakula, le coach. Bonjour à tous les internautes branchés.
La procédure contre Ngaï Sona et Rombo à la une de plusieurs médias à l'étranger.
D'abord, Jeune Afrique qui titre « La CPI engage le procès de Patrice Edouard Ngaï Sona et d'Alfred Yekatom ». Et Jeune Afrique d'ajouter que les charges de crimes de guerre et crimes contre l'humanité visant les deux ex-chefs de milice ont été partiellement confirmées par les juges de la Cour pénale internationale mercredi. Patrice Edouard Ngaï Sona, ancien ministre centrafricain des sports, et Alfred Yekatom, surnommé Rombo, sont accusés de crimes qui auraient été commis en République centrafricaine lors de la guerre civile entre 2013 et 2014. Les juges de la cour basés à La Haye ont rendu une décision unanime confirmant partiellement les charges de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité portées par la procureure à l'encontre des deux hommes. Renvoyant l'affaire en procès, a indiqué la CPI dans un communiqué.
RFI n'est pas du reste dans le traitement de cette affaire.
Centrafrique, Ngaï Sona et Katom seront jugés à la CPI pour crimes de guerre, peut-on lire sur RFI. Les juges de la Cour pénale internationale ont confirmé les accusations de la procédure contre Alfred Katom Rombo et Patrice Edouard Ngaï Sona. Les deux miliciens anti-Balaka centrafricains seront donc jugés à la haie pour des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre commis en 2013 et 2014. Les deux miliciens anti-Balaka sont donc désormais formellement accusés. Et à moins d'un appel du procureur ou de la défense, la date de leur procès devrait bientôt être fixée.
BBC et La Croix ont consigné un article sur la suspension de sa collaboration avec Caritas.
Bien sûr, en Centrafrique, l'ONU suspend sa collaboration avec la Caritas. Le bureau humanitaire de l'ONU en Centrafrique a déclaré qu'il y avait de graves allégations d'abus sexuels sur des mineurs commis par l'ancien directeur de la Caritas dans ce pays, le prêtre belge Luc Delph.
Merci Jean-Fernand Corina pour toutes ces informations du web sur la RCA à l'étranger.
Merci coach, j'invite tous les internautes à faire un tour sur ces sites indiqués pour plus d'informations. Je vous souhaite bonne lecture.